Sud Radio, les clés d'une vie, 11h midi, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Une voie royale vous a permis de commencer à tracer votre route. Vous abordez maintenant un virage, un tournant de votre carrière sans changer de direction, autrement dit en restant le même. Bonjour Jean-Baptiste Guégan.
Hey, bonjour.
Alors, je vous avais accueilli lors de votre premier album, qui a été un succès, 300 000 exemplaires vendus. Vous en sortez un second, Restez le même, on va en parler bien sûr dans l'émission. Et puis, on va évoquer quand même quelques points de votre carrière, car nous n'avons pas tout dit la dernière fois. Et bien sûr, le principe, ce sont des dates clés. Et la première date clé, alors, elle ne vous concerne pas directement, mais indirectement, c'est le 19 juin 1995. C'est la sortie de cette chanson qui est importante dans votre carrière. Écoutez.
À la voix, on devine les enfants coiffés.
Je la croise tous les matins. C'est la chanson qui vous a permis de débuter dans un karaoké, non ?
Ouais, c'est celle que j'ai choisie. Disons, il n'y avait pas un grand choix de Johnny Hallyday dans le karaoké où j'étais. Donc, voilà, il y avait quelques chansons et je me suis dit, c'est celle que je préfère à ce moment-là. Et c'est d'ailleurs une chanson de David Hallyday et de Jean-Jacques Goldman, qu'ils ont travaillé tous les deux ensemble pour faire cette chanson pour Johnny. Et donc, c'est vrai que voilà, c'est la première que j'ai chantée en karaoké.
Pourquoi étiez-vous venu dans ce karaoké ? Je crois que c'était le Café Charlie, non ?
C'était à Lannion. C'était au Marigny, à Lannion, en Bretagne.
Et pourquoi étiez-vous là ?
Ben, je suis allé avec des potes, tout simplement. On voulait sortir, on voulait trouver un endroit où on pouvait faire un petit peu la fête. Et je suis parti avec ma mobylette. J'ai rejoint mes potes avec ma mobylette. Et voilà, et on est arrivé à cet endroit-là. Et on s'est dit, tiens, c'est pas mal, on va rester là. Ils m'ont simplement tanné pour que je puisse chanter une chanson. Donc, j'ai continué. Je leur ai dit non, parce que je voulais pas, moi, en fait. À la base, je voulais pas chanter. J'étais un petit peu timide, un petit peu... sur la réserve, quoi. Je veux dire, c'était pas facile quand même d'un jour, t'arrives comme ça, bon, tu chantes. Et donc, ils m'ont tellement embêté pour que je chante que. Enfin, en fait, ils m'ont rempli le papier à ma place. Donc voilà, ils m'ont inscrit à ma place et du coup, on m'a appelé. J'avais pas eu le choix que d'y aller, donc j'y suis allé.
Et à la fin de la chanson, vous ne savez pas si vous chantez bien ou mal.
Vous savez, un chanteur, ça ne s'écoute pas, en fait. Ça n'aime pas s'entendre, déjà, généralement. Et bon, je n'étais pas chanteur, je n'étais pas, encore chanteur vraiment ouvertement connu, et même pas connu encore. Je ne savais pas, en fait, je me dévoilais, tout simplement. Et la première fois que je prends le micro, voilà, donc j'ai décidé de chanter « Je la croise tous les matins ». Et c'est vrai que quand je suis arrivé, quand j'ai commencé à prendre le micro, j'ai fait « Je la croise tous les matins, 5h40 !» Et là, il y a eu un soupçon de silence dans le bar. Et c'est là où je me suis dit « Qu'est-ce qui se passe ?» Et voilà, ça s'est passé comme ça. Je me suis dit « Qu'est-ce que j'ai fait ?» Ça se trouve, je chante mal, ça se trouve, tout se passe par la tête, en fait. Il y a plein de choses qui nous arrivent là. Et en fait, non, ça a été une révélation. Et voilà, ça, j'ai continué après avec le monsieur qui animait justement cette soirée.
Alors, il faut savoir que cette chanson, il l'a enregistrée chez lui, à la Lorada, Johnny, parce qu'il voulait à l'époque faire comme Elvis, dont les derniers albums avaient été enregistrés chez lui, dans sa maison. Ça lui a laissé du temps pour vivre quelques instants d'amour avec sa nouvelle fiancée de l'époque, qui était Laetitia. C'est à ce moment-là que c'est... Que
c'était tout récent, oui.
Exactement. Alors, Goldman, vous en êtes un fan absolu, je crois. Vous aimez de Jean-Jacques Goldman.
J'aime beaucoup, surtout la carrière qu'il a eue en tant que chanteur, mais surtout en tant qu'écrivain. Je trouve qu'il avait des textes magnifiques. Il a écrit, il n'y a pas que pour Johnny, il a écrit pour Céline Dion, il a écrit pour beaucoup de personnes. C'est souvent des très très beaux, des très beaux écrivains quand même.
Et pas écrit sur un coin de table, c'est-à-dire qu'un jour, il m'a raconté, on était ensemble dans une soirée, il m'a dit, vous n'imaginez pas le temps qu'il faut pour mettre au point une chanson. Ce sont des semaines et des semaines. On ne le mesure pas aujourd'hui.
Oui, c'est vrai. Alors, certains artistes travaillent complètement différemment. Moi, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont fait ça en une nuit, c'était fait. En une heure, c'était fait. J'en ai connu quand même quelques-uns qui, malheureusement, sont partis aujourd'hui, mais... L'Ogivi de la mer, par exemple, une chanson de marin qui a été écrite en une nuit. Voilà, François de Guette, tout ça, qui ont écrit des chansons comme ça. Voilà, ils sont levés, ils ont écrit comme ça, en même pas une heure, c'était fait. Et il y en a qui mettent 2-3 jours et qui réfléchissent. Michel Mallory me fait le même coup aussi. Michel m'a fait la même chose pour le deuxième album. Il m'a dit, tiens, en 3-4 jours, c'était plié, quoi.
Alors, on revient un peu en arrière. Vous avez grandi dans les Côtes d'Armor à Trégueux, qui est 6000 habitants, et avec une particularité, le maire, Marcel Rau, a été en poste de 1947 à 1995, ce qui n'est pas si fréquent.
Effectivement, oui, c'est vrai.
Et il y a une autre gloire à Trégueux, c'est la reine Anne de Bretagne, qui a été reine de France pendant 7 ans et qui a fait étape à Trégueux. Trégueux, c'est tout petit dans les Côtes d'Armor. C'est là où vous avez grandi, pas toujours de façon très heureuse, Jean-Baptiste Guégan.
J'ai eu des différends, j'ai eu plein de soucis, comme un petit peu comme beaucoup de personnes dans la vie de chacun. Après, on s'en sort avec ses propres souffrances, ses propres douleurs, et il faut s'en servir pour avancer.
Vous avez dit un jour que votre père était absent souvent.
J'ai pas eu la chance d'avoir un papa vraiment très qui disait je t'aime facilement, qui montrait pas
ses affections.
Son affection, ses sentiments. Il était plutôt introverti et réservé. Mais je savais qu'il m'aimait, mon père. Il n'y a aucun problème.
Mais c'est un point commun, mais très différent avec Johnny. Johnny, il n'a pas connu son père, sauf une fois. Et l'histoire est extraordinaire, je ne sais pas si vous la connaissez. Lorsque Johnny est à la caserne, son père débarque. En fait, c'était un photographe du journal France Dimanche, l'ancêtre des People, qui avait monté le coup pour une photo pour le journal. C'est quand même pas très familial.
C'est pas très correct. Moi, j'aurais pas aimé qu'on fasse ça comme ça, mais bon. Surtout qu'il l'a abandonné et puis qu'il n'en avait rien à faire, le père de Johnny Hallyday. Voilà, tout le monde le sait.
Oui, exactement. Alors, vous, vous avez grandi avec Johnny, mais vous avez aussi découvert d'autres artistes. Je crois que le grand copain de Johnny, Eddie Mitchell, vous l'avez vu un jour à Binic, dans un festival, et que ça aussi, ça a été important.
Alors, je ne l'ai pas vu que à Binic, je l'ai vu un petit peu, mais je l'ai vu plus de fois, Eddie Mitchell, sur scène que Johnny Hallyday, parce que déjà, Eddie Mitchell, c'était quelqu'un qui était beaucoup plus accessible, je dirais, scéniquement parlant. Parce que Johnny, quand il arrivait, il faisait des gros, gros shows, donc c'était pas forcément accessible à tout le monde, et puis il faisait surtout une grosse tournée. Eddie Mitchell, il faisait les petites salles, c'est-à-dire il faisait Binic, le festival du blues qui était à Binic, il a fait l'Hermione, il a fait... Voilà, et partout où Eddie Mitchell allait, eh ben, c'était accessible, et c'était exactement le même spectacle, en fait. Donc c'est ça qui était bien avec Eddie Mitchell. Et puis j'aime surtout l'homme de scène, l'homme qui parle à son public et qui surtout on a beaucoup dans le crâne quand même.
Alors c'est un passionné de cinéma, on l'a vu avec la dernière séance. Oui. Et il y a quelqu'un de très célèbre qui a grandi à Binic, je ne sais pas si vous le savez, c'est François Truffaut. Il a passé plusieurs étés à Binic chez sa grand-mère, notamment pendant l'année scolaire 39-40. Il était là tous les étés.
Je ne savais pas que François Truffaut avait vécu là, mais j'en apprends tous les jours.
Alors, la Bretagne, c'est là aussi où vous avez appris votre métier, avec des festivals, avec des petits galas. En 17 ans, vous avez appris beaucoup de choses, Jean-Baptiste Guégan.
Oui, en 17 ans de temps, voire même presque 20 ans de scène maintenant. Je crois que la fin d'année, ça fera 20 ans. Mais c'est vrai qu'en 17 ans que je suis resté en Bretagne, ça m'a permis d'apprendre énormément de choses. Vous savez, j'ai commencé par faire des comités d'entreprise, des balles, des karaokés, j'ai animé des karaokés, j'ai appris énormément en travers les gens que j'ai pu rencontrer aussi, à travers les années. Moi, j'aime apprendre des autres. À partir du moment où on m'apprend quelque chose, et que c'est intéressant, bien évidemment, je m'intéresse très facilement et je me nourris de ça, en fait.
Oui, et en même temps, son métier, on l'apprend vraiment quelquefois dans des conditions compliquées parce qu'il y a des galas qui ne sont pas toujours bien organisés et c'est aussi une façon de bien travailler.
Il y a des fois, on tombe sur des personnes un peu plus exigeantes que d'autres et ce n'est pas facile de s'adapter, mais on n'a pas le choix. On travaille, on est embauché. c'est notre métier, voilà. Et puis des fois, il faut savoir la jouer petit pour pouvoir devenir grand. Mais vous savez, Yann Folli, c'est elle qui m'a dit ça un jour, parce qu'elle faisait exactement la même chose que moi, Yann Folli. Elle a commencé par faire des balles et tout ça, et puis aujourd'hui, voilà, elle fait des grands spectacles, et c'est bien. Et du one-man show, même encore.
Et il y a un autre exemple, c'est Serge Lama. Il m'a un jour raconté que son premier gala, c'était dans une grange à la campagne en Normandie, ouais, et qu'il a été payé avec les œufs de la poule du fermier.
Oui, ben, c'est, ben, voilà. Bon, une fois, moi, on m'a bien payé, en bouteille. Voilà. Tiens, je te file une caisse de vin et puis tu viens chanter.
Voilà.
Bon, arrive à tout le monde.
Voilà. Et ben, depuis, vous êtes devenu un grand cru de la chanson. On va en parler dans quelques instants avec une autre date, le 12 juillet 2019. À tout de suite sur Sud Radio avec Jean-Baptiste Guégan.
Sud Radio, les clés d'une vie, 11h midi, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Jean-Baptiste Guégan. Tout à l'heure, on écoutera les chansons de Rester le Même, le nouvel album qui est sorti. Mais là, on revient à une date importante, le 12 juillet 2019. Pour vous citer le décor, vous êtes, dans une sorte de duty-free d'un aéroport. Et on vous montre quelque chose, votre premier album. Vous en souvenez?
Oui, c'est vrai, oui. Oui, c'est vrai. Le premier album, oui, ben, oui, j'étais un peu surpris qu'il soit sorti comme ça assez rapidement quand même. Ça s'est fait, parce que ça s'est fait, je crois, en 3 mois.
Oui.
Et donc, normalement, il ne devait pas sortir à cette date-là. Et on a réussi quand même à avancer le projet. Et ouais, c'était quelque chose d'extraordinaire. Moi, j'ai toujours considéré mon premier album comme mon premier enfant. Voilà, j'ai eu la chance d'assister à la naissance de mes enfants. Ça a été pour moi le plus beau jour de ma vie. Et là, pareil pour mon premier album, tout comme le deuxième. Donc, c'est toujours mon deuxième bébé qui vient de sortir.
Alors, ce premier album, disons, au palier d'enfants, en fait, vous êtes dans cette boutique pour acheter un cadeau pour l'anniversaire, pour le baptême du fils de votre producteur. Et c'est là où on vous montre cet album.
Alors oui, parce que j'étais à l'aéroport mon producteur me fait signe comme ça, me dit vu que c'est le baptême de mon fils, tu veux pas acheter quelque chose? Il m'a fait une boutade. J'ai dit je vais aller acheter un truc. Mais enfin, je savais pas du tout, j'avais pas d'idée en tête, donc j'ai acheté une peluche. J'ai dit ça ira très bien pour son fils. Et puis en fait, j'arrive à la caisse et là le mec de la caisse me dit tout simplement, tiens, j'ai un truc à vous faire signer. Bon, je pensais que c'était une carte, une photo ou je ne sais guère. Et en fait, il me sort l'album. Mais j'ai eu un temps de réalisation, en fait. Je me suis dit, mais j'ai mis du temps à réaliser que j'étais en train de signer mon premier album. C'est tout ça. C'est passé comme ça.
Et il y avait dedans cette chanson, puisque c'est écrit.
Je t'aimerai toujours au-delà de la nuit. C'est écrit, je t'aimerai d'amour.
Et en 15 jours, vous êtes disque d'or. Et ce qui est assez étonnant de votre part, c'est que ce disque d'or, vous allez l'apprendre en direct dans un espace Leclerc. Car vous êtes le matin à la FNAC, à l'espace Leclerc. C'est important pour vous, Jean-Baptiste Guégan, à cette époque-là.
Alors oui, toujours pareil. C'était un cas de surprise aussi. J'étais en train de signer des autographes et tout ça, et à discuter avec les gens et prendre des photos, tout ça. Et il y avait les journalistes qui étaient là, puisque chose que d'habitude il n'y a pas dans les endroits culturels comme ça. Et là, ils ont accepté volontiers de m'accompagner. Et donc, ça s'est fait comme ça. Et mon producteur vient vers moi, il me dit voilà, t'es disque d'or. Donc j'étais le plus heureux du monde. Mais toujours pareil, j'ai eu un temps de réalisation parce que vous savez, c'est compliqué en l'espace d'un an. En un an, il s'est passé énormément de choses entre la France et Un incroyable talent que j'ai gagné. Après, la deuxième année, j'attaque le nouvel album dans la foulée, le tout premier album, et je deviens disque d'or en même pas 2 semaines. Là, c'était l'apothéose, quoi.
Surtout, vous ne pensiez pas qu'on pourrait vendre 300 000 exemplaires encore aujourd'hui.
Non, je ne pensais pas, non. Ça, c'est sûr.
Alors, vous faites justement ces espaces Leclerc, ces FNAC. FNAC, au départ, on l'a oublié, ça veut dire Fédération Nationale d'Achat des Cadres, parce qu'au départ, c'était des carnets d'achat pour les cadres, pour payer moins cher. Et vous ne rechignez pas à faire ces lieux où peu d'artistes vont, finalement. Mais c'est très important pour la communication et pour se faire connaître, Jean-Baptiste Guégan.
J'ai jamais rechigné quoi que ce soit. Tout dépend quel niveau c'est aussi, quand même. Mais à vrai dire, j'ai une bonne équipe autour de moi qui me conseille, qui me dit voilà, là tu devrais le faire, tu devrais pas le faire. Enfin, il y a des choses qu'on ne doit pas faire, voilà, en tant qu'artiste, parce que des fois ça peut être ringard, ça peut être ridicule, ça, on peut passer aussi pour ce qu'on n'est pas, alors que c'est pas l'intérêt. Moi, je marche souvent à l'instinct. Si je me dis tiens, c'est voilà, puis j'ai souvent affaire à des gens bienveillants comme vous. Donc voilà, c'est quand ça se passe comme ça, c'est génial.
Alors, il y a eu un autre grand moment d'émotion, Jean-Baptiste Guégan, lorsque vous êtes arrivé à Nashville enregistrer votre premier disque, vous entrez dans le studio et il y a une affiche. Et cette affiche, pour vous, ça a été un moment d'émotion aussi.
Voilà, il n'y avait pas qu'une affiche. Hein. Il y avait, je crois qu'il y en avait une bonne cinquantaine facile. Voici le Soon Emporium à Nashville. Oui, c'est une légende, ce studio. C'est une légende. Les plus grands artistes sont passés dans ce studio. Donc, j'ai vu plusieurs affiches, bien évidemment. Mais il y en a une qui m'a interpellé, effectivement. C'était en 84, quand Johnny est allé avec Michel Mallory. Il chantait avec les Stray Cats. Il y avait Carl Perkins. Il y avait tout le monde. Et cette affiche-là, il y a tout le monde dessus. Et tous ces musiciens de l'époque qui jouaient dans le studio. Et c'était grandiose pour moi parce que je me dis, mais je l'ai à la maison, cette affiche-là. Je l'ai déjà vue quelque part. Et du coup, voilà, j'ai trouvé ça extraordinaire de voir ça. Ça fait partie des légendes de ce studio.
Et Johnny, il faut le savoir pour celles et ceux qui l'ont oublié, il est allé pour la première fois à Nashville en 62. Il avait signé, il avait quitté Vogue pour un contrat avec Philips. Et le cadeau, c'était d'aller là-bas enregistrer son album. Il a vu Red Charles à New York. Ensuite, il est allé là-bas où Gene Vincent ou Brenda Lee ont enregistré. Et il a enregistré cette chanson. Début de Johnny qu'on a parfois oublié avec cette chanson et que vous pourriez reprendre un jour à votre répertoire.
Moi, j'ai déjà fait.
J'ai déjà fait, ça ne m'étonne pas. Alors, ce qui est étonnant aussi, c'est qu'après la sortie de ce premier album, il y a eu un vinyle blanc qui est sorti. La mode des vinyles est de retour et vous avez fait le premier vinyle blanc du retour du vinyle, Jean-Baptiste Guégan.
Mais oui, effectivement, oui. Après, ça a été une décision avec la production et tout ça, quoi. Donc, c'était pas facile au début. On s'est dit, est-ce qu'on va pouvoir vendre du visuel ou est-ce que ça va être, enfin, du physique, je veux dire, ou est-ce que ça va être plutôt, en téléchargement, parce qu'à l'époque où on vit aujourd'hui, voilà, il y a beaucoup de téléchargement qui se fait et qui, voilà, et du coup, moi, ce que je suis tombé dans la période en fait où les gens sont en demande du physique. Et donc, il fallait faire voilà, un album blanc comme ça, et c'était sympa.
Alors, les vinyles reviennent à la mode aujourd'hui. On a oublié que le premier vinyle rouge, c'est dans les années 60, c'était Antoine qui avait fait voter pour moi. Et le premier 33 tours rouge, c'est Karen Cheryl qui l'a fait aussi à l'époque de sa gloire. Et c'était tout à fait innovateur à l'époque. Alors, il y a une autre chanson dans cet album qui a touché les fans de Johnny, Jean-Baptiste Guégan. Écoutez-la.
Square de la Trinité, c'était votre adolescence, le printemps de vos vies.
Ça aussi, c'est une chanson importante. D'ailleurs, la mairie de Paris songe à mettre une stèle et une guitare en bronze dans le Square de la Trinité où Johnny a grandi.
Effectivement. Oui, parce qu'il il habitait juste à côté du Square de la Trinité. Mais c'est surtout une histoire d'amitié. Cette chanson, parce que c'est là où il se retrouvait avec Jacques Dutronc et Eddie Mitchell. C'est là où il faisait les 400 coups, c'est là où il allait draguer les gonzesses, comme on dit. Et c'est vrai que c'était leur jeunesse, quoi. Et c'était pour eux leur échappatoire.
Vous êtes allé au Square de la Trinité vous recueillir en quelque sorte?
J'y passe tous les jours au Square de la Trinité parce que forcément, il y a Sony Music qui est juste sur la rue qui est parallèle. Donc, oui, j'y passe devant très régulièrement.
C'est un lieu qui existe toujours. C'est l'un des rares lieux comme ça où les jeunes peuvent se retrouver. À l'époque,
ouais,
c'était novateur.
Oui, bah, à l'époque, c'était cultissime pour eux. Enfin, c'était leur endroit à eux. Maintenant, voilà, ça appartient un petit peu à tout le monde. Mais à l'époque, tout le monde n'allait pas comme ça rentrer dans le square de la Trinité. Voilà. Puis, ils n'étaient pas connus, donc ils pouvaient se permettre.
Oui, vous, c'est même en étant connu, vous pouvez aussi vous permettre.
Oui,
on va se retrouver dans quelques instants avec une autre date particulière, le 16 avril 2020. À tout de suite sur Sud Radio avec Jean-Baptiste Guégan.
Sud Radio, les clés d'une vie, 11h midi, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Jean-Baptiste Guégan. Tout à l'heure, on parlera de Rester le même, ce nouvel album très attendu par vos fans. Le 16 avril 2020, ça ne vous dira rien, mais il s'est passé une scène qui pourrait être liée à cette chanson de Johnny.
Tourner le temps à l'orage, revenir à l'état sauvage.
Car vous avez allumé le feu, Jean-Baptiste Guégan, dans votre cuisine, avec Cyril Lignac de l'autre côté de l'écran. Vous vous en souvenez ?
Oui, oui. Ben, j'ai essayé d'allumer le feu, mais déjà, ça ne marchait pas. Non, c'était compliqué. Mais c'est vrai, bon, c'était très bon, hein, cela dit. Ce n'est pas pour me vanter, c'était très bon ce que j'ai fait. C'était un risotto.
Oui.
Mais c'est vrai que tout se passe très rapidement. En une heure, il faut qu'on ait fait le risotto. Donc,
oui, c'est une émission de télé.
On enchaîne, on n'a pas le temps de comprendre vraiment ce qui arrive. On était en visio parce que c'était la période de confinement, un peu comme là on est. Et puis j'en ai foutu partout dans la cuisine, quoi. J'ai renversé, j'ai renversé le riz, j'ai renversé, enfin, j'en foutais partout, quoi. Mais vu que je suis pas cuisinier du tout, alors voilà, quoi. Mais
vous, bon, avez vous avez la recette du succès, c'est déjà pas mal. Mais effectivement, c'était une émission de télévision avec Cyril Lignac par Zoom, et à un moment, je crois que vous avez du mal à faire monter la béchamel.
Oui. Alors j'ai trouvé une tactique à moi. Voilà, même d'ailleurs Cyril Lignac, il l'a dit d'ailleurs, quand il me voyait comme ça, il me dit, mais bizarre comment tu fais monter ta... En fait, j'étais comme ça, au lieu de faire comme ça, avec la spatule, enfin le fouet, j'ai dit, oh là là, c'est trop long, ça ne monte pas. Et du coup, j'ai dit, bon, je vais faire comme la machine en fait, sauf que je prenais comme ça, comme on faisait du feu, quoi.
Voilà, et en foutant les mains.
Et du coup, j'allais plus vite. Bon, j'en foutais partout, mais ça fait rien, et monter quand même.
Mais Cyril Lignac, c'est une réussite extraordinaire. Il faut savoir qu'il a démarré parce qu'il a eu l'intelligence, lorsqu'il a ouvert son premier restaurant, de faire suivre la création par la chaîne M6 et l'émission Obi Chef. Et ça a lancé son établissement.
Oui, ça a lancé, oui, bien sûr.
Alors, finalement, cette recette de cuisine, c'est l'une des conséquences de votre succès. On vous demande tout et n'importe quoi depuis un an. Et vous le faites la plupart du temps avec bonheur et avec sourire, Jean-Baptiste Guégan.
Ben oui, parce que j'aime partager les choses avec mon public, parce que faut dire que les gens m'ont regardé, voilà aussi. Et puis et j'aime bien blaguer, j'aime bien plaisanter, voire même sur les choses que je ne sais pas faire. Vous savez, je sais faire beaucoup de choses, et je connais la mécanique, je connais la menuiserie, parce que je suis menuisier aussi d'origine. Bon, la chanson, ça, n'en parlons même pas. Mais il y a des choses que je connais pas. Donc j'aime apprendre, et même si je peux le faire en blaguant, ben voilà, j'adore me marrer, donc j'adore l'humour, et puis c'est comme ça que j'aime la vie.
Voilà. Et vous êtes devenu un familier et un habitué des réseaux sociaux, Jean-Baptiste Guégan. C'est-à-dire que régulièrement, il y a Jean-Baptiste Guégan qui apparaît, qui dit bonjour à son public et qui raconte des choses.
Alors ça, c'est complètement différent, parce que je vais vous expliquer, il y a quelque chose qui est assez étrange. En fait, je ne suis pas fait du tout pour les réseaux sociaux, parce que j'ai énormément de mal à m'adapter comme ça à travers un écran. Bon, là, ça va parce qu'on est en direct, mais quand c'est enregistré, souvent, j'ai du mal à me projeter et dire voilà, ce que j'ai sur le cœur et parler à mon public, parce que pour moi, c'est pas naturel. Et puis en plus, je ne sais pas me servir du tout d'un ordinateur, donc je suis un piètre imbécile là-dessus. Et j'ose le dire, parce que je n'ai pas honte à le dire, mais ce n'est pas moi qui m'occupe de ça, en fait. Voilà, on me met l'écran, quelqu'un gère la situation, et moi après, voilà, je veux bien parler, mais c'est tout. Mais pour moi, c'est beaucoup. Une année d'Internet. C'est, voilà.
Oui, mais on vous a vu quand même beaucoup parler à votre public, raconter des choses.
Ben, bien sûr, mais aujourd'hui, si on passe plus par Internet, aujourd'hui, on ne parle plus à personne. Donc, on est obligé de se faire avec le temps, quoi. On s'y fait.
Voilà. C'est une façon de dire merci à votre public. Merci d'ailleurs, c'est le titre d'une chanson de ce premier album.
C'est surtout une façon de rester proche d'eux.
Je voudrais lui dire merci pour ce qu'il m'a appris d'avoir donné.
C'est vrai que cette chanson est très belle comme les autres et que votre timbre rappelle vraiment Johnny. Alors, quand on regarde ces réseaux sociaux attentivement, on apprend plein de choses sur vous, Jean-Baptiste Guégan. À force de vous poser des questions, il y a des réponses étonnantes. Par exemple, j'ai appris que vous n'aviez pas de tatouage, à l'inverse de Johnny.
Non, c'est vrai, j'ai pas de tatouage. Alors après, j'ai jamais pensé à en faire non plus, parce que j'ai pas. C'est peut-être parce que j'étais pas. Je suis peut-être pas tombé dans la bonne génération. Mais moi, je dis quelqu'un qui fait un tatouage, il faut vraiment réfléchir à plusieurs fois, parce qu'une fois que c'est gravé à vie et à tout jamais. Donc, j'ai pas envie de faire n'importe quoi et j'ai pas envie de faire comme les autres. C'est-à-dire, si je dois m'en faire un, je m'en ferai un, mais je veux pas le même, je veux pas un tatouage comme ça commun que tout le monde a ou que je vais pas me faire un loup parce que Johnny avait un loup, ni un aigle parce que Johnny avait un aigle, ni même autre chose. Je veux dire, voilà, non, si je dois faire un tatouage, ce sera le prénom de mes enfants.
Alors Johnny, en revanche, lui obligeait ses proches à faire des tatouages. Et quand Amanda Sterz a fait le livre sur Johnny, il lui a dit si on en vend plus de 500 000, tu te fais un tatouage. Et elle a obligé de se faire un tout petit tatouage derrière le cou parce qu'elle a vendu 600 000 exemplaires de son livre. Bon, ça paye le tatouage et un peu plus. J'ai découvert aussi que vous étiez un passionné de foot et que Mbappé était l'une de vos idoles.
Bah là, Mbappé, il y en a plein. Bah, le premier idole, c'était Zidane pour moi.
Oui.
Voilà, mais c'est vrai que j'aime beaucoup Mbappé parce que je trouve qu'il a un style de jeu qui est proche de Zidane et qui c'est un joueur qui est très humble et il se la raconte pas, quoi. Je veux dire, il fait son match et puis voilà, ça reste un mec humble et simple.
Exactement. Et moi, je me souviens l'avoir vu dans les coulisses du Grévin où on le recevait à une époque. Et devant nous, il y avait l'écran du 20h où Didier Deschamps donnait la composition de l'équipe de France qui a gagné la Coupe du Monde. Il ne savait pas. Il a découvert qu'il était sélectionné à la télévision.
Oui, il était en direct, oui. C'est vrai.
Et puis, il y a une série qui vous passionne aussi, qui a compté dans votre vie. Écoutez ceci, Jean-Baptiste Guégan.
In the eyes of a ranger, the unsuspected stranger.
The Eyes of the Rangers, c'est une série qui s'appelle Wild West Texas Rangers, qui est Chuck Norris. Ça vous passionne cette série?
Mais j'ai adoré Walker Texas Rangers, c'est vrai, avec Chuck Norris. Mais j'adore ce style un peu américain, western, parce que c'est voilà Texas, c'est toujours ce qui m'a toujours fasciné. Voilà le Colorado, tout ça, enfin bref, mais j'aime cette série, ouais. Je sais pas, je trouvais que bon, c'était un petit peu trop karaté vers la fin, mais au tout début, quand ça a commencé, ouais, j'étais fan, et puis bon, j'étais gamin, et puis je regardais la série là.
Ouais. Et ça a rapporté quand même un symbole à Chuck Norris, puisqu'au bout de 10 ans, il a reçu le titre de Texas Rangers de la part du Texas pour avoir vanté cet état des États-Unis,
c'est vrai.
Et il y a une parodie, je ne sais pas si vous la connaissez, Cartman, un humoriste français, qui a fait une parodie qui Cartman. S'appelle « Quand il pète, il trouve son slip ».
Oui, oui. Et quand il pète, il trouve son slip, oui. Mais si, je connais. C'est un peu moins intelligent, mais enfin, c'est bien quand même.
C'est bien. Et à propos d'humoriste, il y en a un aussi qui vous a marqué. Écoutez.
Quand papa demanda à ma mère « Voudrais-tu m'épouser à Dada ?» Ma maman répondit pour lui plaire « On ira se marier à Dada. »
Voilà. Bourville chante à Dada, c'est assez étonnant, mais Jean-Baptiste Guégan, vous aimez cette chanson?
Moi, alors, j'aime pas que cette chanson, mais Bourville, c'était un génie. C'est pour moi quelqu'un qui, sans faire d'humour, en faisait vraiment à merveille, quoi. Il cherchait pas à faire de l'humour et à faire rire les gens, il le faisait naturellement. On n'avait qu'à regarder Bourville, déjà tu rigolais. Voilà. Oui. Donc tu te marrais déjà que rien qu'il avait sorti un mot, oh bah dites d'or, et voilà, et c'est parti. Et quand on est gamin et qu'on a été éduqué avec Bourville, De Funès, Gabin, tous ces grands acteurs aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est aussi un acteur, c'est vrai que Bourville, c'était pour moi... Surtout que le premier film que j'ai dû voir de Bourville, c'était Le Passe-Muraille.
Et, après Marcel Aimé.
Imaginez à l'époque comment ils ont pu faire ces effets spéciaux, là, trucs farfelus, sortis d'outre-tombe, j'en sais rien. Mais c'était sympa.
C'était au début des années 50. Et Bourville était tellement drôle que quand il prenait le métro, parce qu'il était justement très, très humble, les gens le regardaient et disaient, ce qui peut être consulat, qu'est-ce qui nous fait rigoler ?
C'est ça. Sentiment. Mais Coluche était pareil. Hein.
Oui, exactement.
Ouais.
Alors, il y a aussi un souvenir très important pour vous, c'est le 4 octobre 2019, le premier Zénith à Orléans. Ça aussi, c'était un moment d'émotion, Jean-Baptiste Guégan.
Oui, alors vous savez, la première fois qu'on est confronté à autant de places sur scène avec autant de musiciens, une grosse formule, on était quand même une V13, avec autant de personnes devant nous, je crois qu'on n'était pas loin de 5000 personnes, je crois, 5-6 000 au Zénith d'Amiens. Le tout premier Zénith, on fait « waouh » quand même. C'est grandiose. Donc, il a fallu se préparer moralement, physiquement à tout ça, quoi. Et je savais qu'il y en avait d'autres après à suivre, donc j'en ai fait un peu plus de 80. Et tout s'est très bien passé, et voilà, quoi. Et puis, on oublie. Une fois qu'on arrive sur scène, on oublie, en fait. On oublie qu'il y a 7000 personnes ou 8000 personnes. On oublie qu'il y a 13 musiciens. On joue, on est ensemble, on forme une famille, et tout se passe bien.
Voilà, alors sur les réseaux sociaux aussi, Jean-Baptiste Guégan, j'ai découvert un teaser. En avant-première, vous avez évoqué votre nouvel album et particulièrement cette chanson « Si tu restes auprès de moi ».
Si tu restes auprès de moi, si tu restes auprès de moi.
Alors là, on est dans le second album, ça y est. Alors, ce qui m'a frappé en voyant le clip de cette chanson, le mini-clip, c'est que vous faites du cheval, comme Johnny, en 63, dans « Tout viens-tu de Johnny ». Et d'ailleurs, il avait appris le cheval, je ne sais pas si vous le savez, grâce à Charles Aznavour, qu'il avait hébergé chez lui. Oui. Il avait des chevaux à Montfort-l'Amaury, et il a appris à monter comme un cavalier à Johnny.
Je suis au courant de tout ça, parce que j'ai la chance de connaître quand même Michel Mallory. Mais j'ai une autre anecdote, et ça, je peux vous le dire, parce qu'il n'y a rien à cacher. Il a aussi appris à ne plus faire remonter Michel à cheval. C'est-à-dire, à ce moment-là, non, parce que Johnny, il faut savoir qu'il c'était quelqu'un qui aimait faire des canulars pour les autres. Il n'aimait pas qu'on en fasse pour lui, mais enfin, il aimait bien les faire pour les autres. Et donc, il oblige Michel à monter à cheval avec Johnny. Et Michel a très peur des chevaux. Et donc, il se dit, bon, enfin, il était méfiant à l'époque quand première fois, il monte sur le cheval. Donc, il monte à cheval, tout se passe très, très bien. Sauf que Johnny, en fait, au lieu de la faire cool, l'a fait exprès, il tape sur le cul du cheval, comme ça, mais très fort, et le cheval part dans tous les sens. Michel, lui, se tient comme il peut et prêt à partir. Et donc, du coup, depuis, Michel ne peut plus monter à cheval à cause de Johnny. Donc voilà, c'est juste une anecdote comme ça. J'abrège parce que l'histoire est un peu plus longue, mais c'est ça.
Bon. Eh ben, c'est une.
Et donc Johnny, oui, mais enfin, il a appris à monter à cheval depuis tout jeune, comme moi j'ai appris, puisque ma tante et mon oncle tenaient des chevaux en Bretagne. Mon oncle Marcel tenait des chevaux et il avait de toutes sortes de chevaux. Et j'arrivais là-bas et à chaque fois je disais, tonton, est-ce que je peux monter à cheval? Donc j'ai appris à monter à cheval là-bas. Voilà. Alors moi je suis allé pour mon clip en Corse et Johnny, lui, c'était en Camargue. Donc voilà. Mais j'adore monter à cheval, c'est vrai que j'adore ça.
Et ben maintenant, on va aller au galop vers ce nouvel album qui est sorti le 18 septembre 2020. On en parle dans quelques instants sur Sud Radio avec Jean-Baptiste Guégan.
Sud Radio, les clés d'une vie, 11h midi, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Jean-Baptiste Guégan, 18 septembre 2020, sortie de Rester le même, ce second album. Alors, je dirais, on prend les mêmes, mais on ne recommence pas exactement parce que vous avez travaillé avec Michel Mallory, avec quelques autres. Mais cet album, il a fallu, ça a été un gros travail.
Eh oui, alors déjà, ça a été un gros travail musicalement parce que j'ai voulu tout transformer. En fait, je ne voulais pas que ça ressemble à l'ancien album, enfin au premier album. Je ne voulais pas que ce soit trop country, en fait. Je voulais qu'il sonne un peu plus rock and roll et un peu plus variété aussi. Donc il a fallu changer musicalement. Mais j'ai continué avec quand même les meilleurs musiciens, quand même, qui, pour moi, les meilleurs de Nashville, qui ont travaillé, qui ont accepté de travailler encore avec moi sur cet album. Il y a aussi des musiciens à moi qui sont sur scène avec, qui jouent sur scène avec moi, qui ont aussi participé à l'album. Mais bon, c'est un album assez particulier parce qu'il a été fait en période de confinement, donc on ne pouvait pas se retrouver, donc on était comme ça en visio, pareil. Et le deuxième bébé est né, je dirais, il y a 80% qui a été pris chez moi dans mon studio.
Voilà. Et directement avec Nashville, en direct avec Nashville.
Et j'étais en direct avec Nashville, avec Philippe Russo, qui est mon directeur artistique et musical. Voilà, donc ouais, c'est vrai, ouais. Ouais, on était. Bon, c'est une façon de travailler que je ne connaissais pas, donc il a fallu passer par là, et puis pas le choix que de le faire. Hein.
Non, mais remarquez, personne ne la connaissait, cette façon de travailler encore
non,
jusqu'au début de l'année. Et le titre de l'album, c'est celui qui ouvre l'album, justement, Rester le même.
Je veux rester le même, ne pas changer de peau, une guitare pour emblème et un rock pour drapeau, et un rock pour drapeau.
Voilà, ça c'est Rester le même, ça vous correspond, car finalement, malgré 300 000 exemplaires vendus et 80 Zénith et quelques autres concerts, vous n'avez pas changé et vous ne voulez pas changer, Jean-Baptiste Guégan.
Ben, vous savez, moi, comme je dis toujours, non, je ne veux pas changer, bien évidemment. Au contraire, je veux rester ce que je suis dans mon âme et garder la façon dont j'ai envie de vivre. Et c'est surtout par respect pour les autres. Après, c'est pas les artistes qui changent en général, c'est les gens qui les entourent. Voilà, moi j'ai pas cette prétention. Voilà, je suis pas chirurgien, comme je dis toujours. J'ai pas sauvé des vies. Par contre, si je peux contribuer à faire plaisir aux gens à travers ma musique, ce sera déjà du bonheur de donner. Et moi, ça me fait plaisir.
Alors, vous avez convaincu Michel Mollery de continuer à travailler avec vous, ce qui n'était pas évident au départ, Jean-Baptiste Guégan.
Michel Mollery, ça n'a pas été évident. Disons que Michel, en fait, c'était quelqu'un qui n'avait pas fait son deuil avec Johnny Hallyday. 50 ans d'amitié, ça ne s'oublie pas. Pas loin de 140 chansons écrites pour Johnny Hallyday, un peu plus même. Parolier pendant des années et des années. Et surtout une longue amitié. Et donc, d'avoir perdu un homme comme Johnny, déjà nous, en tant que fans, ça nous a fait énormément de mal. Alors j'imagine que quelqu'un qui l'a connu aussi bien que Michel Mollery, ça devait être compliqué de voir un type comme moi débarquer avec à peu près la même voix, dis-moi une similitude vocale. Donc je pense qu'il a été un peu sceptique au début, et ce que je peux comprendre. Mais... À vrai dire, le courant est passé, il y a eu une alchimie entre nous. On a discuté beaucoup, surtout de Michel, parce que je me suis assez intéressé à son parcours, je connaissais aussi son parcours, et que c'était très important quand même de ne pas faire l'égoïste quoi, sur ce côté-là. Je n'avais pas pensé à moi du tout, moi je m'en foutais un petit peu. Voilà. Par contre, j'étais très impressionné quand j'ai rencontré Michel pour la première fois. Et ça s'est passé comme ça, naturellement.
Voilà. Et en même temps, vous avez une qualité particulière, c'est l'instinct. Vous êtes un instinctif, Jean-Baptiste Guégan.
Carrément, oui. Très instinctif. Je sens les choses. Quand je sens que je ne dois pas aller là, je n'irai pas. Quand je travaille, généralement, même en travaillant, c'est pareil. J'ai exactement la même façon de faire avec Michel, justement, quand il m'a proposé des textes et des chansons. Généralement, si je ne vais pas jusqu'au bout quand je les lis et que je les chante en même temps ou que j'écoute, c'est que ça ne me plaît pas. Donc, je le mets de côté, je dis ça, non, je ne veux pas. Ça, je ne pense pas que ça va aller pour moi. Et je me trompe rarement, je ne vais pas dire jamais, mais jusqu'à présent, sur les deux albums, je crois que je ne me suis pas trompé.
Voilà. Et quand vous avez lu une chanson, vous avez tout de suite dit que vous allez l'enregistrer, c'est « Tu es toujours là ».
Après tant d'années, d'éclats de rire et de si beau silence. Tu es toujours là, tu es toujours là, tu m'as tout donné.
Chanson de, écrite par Slimane. Ça a été une rencontre, ça aussi. Je crois qu'il a accepté parce qu'il s'est dit que vous aviez beaucoup plus à dire et à raconter que certains l'imaginent, Jean-Baptiste Guégan.
Mais je pense qu'il a, il a su trouver la, Slimane a su trouver la sensibilité que j'avais. La chanson qu'il fallait à ce moment-là, qu'il fallait que je chante. Parce qu'on n'a pas, Slimane et moi, on n'a pas la même façon d'interpréter des chansons, mais. Mais dans son texte, j'ai trouvé le texte très intéressant et je l'ai trouvé une chanson vraiment très très forte. Je lui ai dit pourquoi pas. Ça s'est fait au dernier moment parce que l'album allait se boucler en fait avec des chansons, 10 chansons, 12 chansons de Michel Mallory. Et d'un coup, j'ai un appel de Philippe Russo qui me dit j'ai Slimane aussi sous le coude. Alors à ce moment-là, comment faire ? Alors, je lui dis, écoute, l'album, il est comment ? Est-ce qu'il est fini ? Est-ce qu'il n'est pas fini ? Il me dit, non, on peut encore faire une ou deux chansons. Et donc, j'ai eu cette chance de rencontrer Slimane, qui m'a proposé de chanter cette chanson et ses paroles. Et je les ai trouvées magnifiques. Et voilà comment j'interprète une chanson. C'est-à-dire tout simplement à l'instinct, voilà, j'y vais parce qu'elle me plaît.
Et lui cas, aussi...
Comme j'ai fait avec Marc Lavoine.
Voilà, on va en reparler, mais surtout, moi, ce qui me fascine avec vous, c'est que vous avez cet instinct qui fait que vous sentez les choses. Et Slimane a eu le même sentiment et il a essayé d'aller en vous alors que vous êtes pudique et que vous ne vous dévoilez pas, finalement, Jean-Baptiste Guégan.
Ben, moi, je me dévoile. Ma façon à moi de me dévoiler, c'est à travers les chansons. Il n'y a qu'en chantant que je peux me dévoiler. C'est pour ça que l'album Rester le même porte bien son titre. Et il y a aussi des titres à l'intérieur qui ont été faites, je dirais, sur mesure. C'est un album très personnel.
Ouais, et, c'est le cas d'une chanson, d'ailleurs. Écoutez.
Quoi de mieux que de mettre ça en chanson ? Pour moi, c'est beaucoup plus facile de mettre ça en chanson, enfin, de les chanter plutôt que d'en parler.
Oui, il y a d'ailleurs une chanson qui correspond à ce côté très personnel, c'est « La dame aux yeux verts ».
Oui.
La femme de ma vie avait des cheveux gris, des yeux verts comme l'océan et le rire d'une enfant.
La dame aux yeux verts, c'est votre est-ce mère, ça rime.
Effectivement.
Et vous avez voulu lui rendre hommage, elle a disparu, je crois, il y a 10 ans, et vous avez vraiment voulu lui rendre un hommage affectueux parce qu'elle a beaucoup fait pour vous.
Ben, déjà, elle a beaucoup fait, puis elle a beaucoup compté pour moi, surtout. Vous savez, quand vous perdez les gens que vous aimez aussi rapidement, comme ça, sans jamais dire au revoir, c'est toujours très, très, très douloureux. Quand on n'a pas le temps de dire au revoir à quelqu'un, c'est compliqué. Puis ma mère, voilà, on avait pas encore, je pense, coupé le cordon ombilical, tous les deux. On n'avait pas coupé le cordon et c'était... c'était une grande histoire d'amour avec ma maman.
C'est elle qui a repéré votre voix.
Ben, c'est elle qui m'a dit que tu as un potentiel déjà. C'était déjà pas mal. Après, elle me disait quand j'étais faux, elle me conseillait tout le temps. Elle était tout le temps en train de me pichonner tout le temps. C'était une mère, mais aussi une femme. Voilà.
Et avant d'écrire la chanson, je crois que Michel Mallory vous a interviewé sur votre mère.
Mais ouais, alors, Michel, par contre, pour le coup. Je me souviens très très bien le jour où il m'a présenté les paroles et qu'il a fallu chanter la chanson. On a pleuré tous les deux. Hein. On a bré, vraiment c'était terrible. Je me mets à chanter la chanson je me suis tourné vers lui. Je lui ai dit t'es vraiment un enfoiré. il me dit ouais bon mais c'est bon, elle te plaît. Je lui dis bah oui ça me plaît. Et voilà, et on est parti comme ça. Et je dis, mais les paroles, c'est copie conforme de ce qu'était ma maman.
Et puis, il y a une autre chanson sur cet album, on en a parlé, c'est une chanson de Marc Lavoine qui s'appelle « Sur le bord de la route ».
Toutes mes lettres ne font que t'embrasser. Je m'assois sur le bord de la route. Je laisse le temps passer. Je laisse le temps passer. Et je suis
Antoine, que vous n'avez jamais rencontré Jean-Baptiste Guégan avant l'enregistrement.
Non, effectivement, je n'ai pas eu cette chance de rencontrer Marc Lavoine parce que ça s'est fait vraiment au tout dernier moment. Et on était, comme je dis encore, comme on est aujourd'hui en période de confinement, donc ce n'était pas le moment qu'on puisse se rencontrer. Et donc, il m'a envoyé un texto avec ses compliments. Ça a été vraiment extraordinaire parce que Philippe Russo, qui est mon directeur artistique, me dit « J'ai une chanson de Marc Lavoine que je connais très bien. » Bref, voilà. Bon, je lui dis « C'est une balade. » Il me dit « C'est une balade. » Il me dit « Si ça te plaît, tu le fais. Sinon, on attendra pour le prochain album ou pas. Ou voilà, tu la mets de côté. » Et on verra bien. Ce n'était pas obligatoire que je puisse la chanter. Mais je ne sais pas, il y a eu quelque chose là-dessus. Et en plus, il y a eu la participation de Sandrine Quétier qui fait la deuxième voix féminine sur cette chanson. Je me suis aventuré en fait dans quelque chose qui était vraiment un peu différent de ce que je fais d'habitude. Et donc Marc Lavoine m'envoie un message après, une fois que j'ai enregistré cette chanson. Je l'ai fait en deux prises. Et donc, il m'envoie un message et me dit « Félicitations, c'est exactement ce que j'attendais de toi. » Et la prochaine fois, si on arrive à se voir, voilà, ça sera avec plaisir. On ira se prendre un café ensemble, et pourquoi pas.
Exactement. Il connaît bien son métier, les artistes, Marc Lavoine, car il les a observés avant de commencer à chanter. Il a été placeur à l'Olympia. Il a même commencé à répéter dans la salle de billard de l'ancienne Olympia. Et c'est comme ça qu'il a débuté et gagné sa vie quand il prenait des cours. Et puis, il y a aussi une chose étonnante dans cet album, c'est-à-dire que vous l'avez présenté sur les réseaux sociaux en tournant des web-séries, 8 web-séries, avec votre public.
Oui, c'est vrai, il fallait le présenter comme ça. Toujours pour ne pas parler du Covid, mais enfin bon, il fallait le présenter, faire des web-séries, voilà, parce que aujourd'hui, les gens sont très Internet, quoi, donc on est obligé maintenant de passer par Internet pour pouvoir être vu beaucoup plus de fois sur les réseaux sociaux.
Et donc, vous avez tourné ces web-séries pour retrouver un public qui vous manque, parce que pour l'instant, les tournées, malheureusement, c'est remis à une date très ultérieure.
Oui. Oui, c'est remis en 2021, mais du moins, je croise les doigts. Mais c'est surtout, voilà, c'est mon public qui manque. Cette convivialité qu'on avait sur scène, de partager des choses, et puis c'était tellement, tellement intense que ça s'est arrêté comme ça du jour au lendemain. Vous finissez 80 Zénith, vous êtes rodé du premier spectacle, tout est en ordre, tout est clair, tout est clean, avec moi et mes musiciens, et toute mon équipe, bien évidemment, parce qu'il y a les éclairagistes, il y a tout le monde qui rentre en ligne de compte. Et tout le monde reste à la maison. Je me rappelle, c'était un mardi. Restez chez vous. Oui, là, c'est dur. Oui.
Ouais. Heureusement, on continue à écouter vos chansons, dont celle-ci qui est également sur ce nouvel album Restez le même, qui s'appelle Je joue.
Peu m'importe le personnage, je vole son âme et son visage. Et je suis aussi
bien. Vous jouez, mais vous vivez intensément ces chansons, Jean-Baptiste Guégan.
Oui, parce que comme je dis toujours, déjà cette chanson-là, elle est née, elle est sortie d'un tiroir, parce que Michel ne l'a pas écrit comme ça, il a juste adapté les paroles. Et Michel Mallory me dit... Il m'a toujours dit que j'avais une gueule d'acteur. Alors, je lui dis, bon, on va attendre un petit peu. Si j'ai la proposition de tourner un film avec... on verra. Je lui dis, écoute, Michel, je ne te crois pas trop. Enfin, bon, ça va. Je suis déjà chanteur, c'est déjà pas mal. Et il me dit, si, je te jure, tu as vraiment une gueule d'acteur. Mais de toute façon, c'est vrai ce qu'il dit quelque part. Parce que quand on monte sur scène, on est forcément acteur quelque part de soi-même. On a un rôle d'acteur quand on monte sur scène. Donc, cette chanson-là, elle est née comme ça. Et c'est vrai, quand il me dit « Je suis aussi bien l'innocent, l'assassin, et je ne suis qu'un menteur qui joue », c'est vrai. Alors, ça peut paraître bête, mais en même temps, c'est un peu vrai.
Voilà. Et ce qui est vrai, c'est que vous serez peut-être un jour acteur. En attendant, il y a cet album, Restez le même, que celles et ceux qui vous aiment écouteront avec bonheur. en attendant de vous retrouver sur scène le plus vite possible.
Le plus vite, oui.
Merci Jean-Baptiste Guégan, c'est la deuxième fois qu'on se voit. Jamais 203, à bientôt.
C'est vrai. Ben, jamais 203, j'espère du moins.
Le plus vite possible. Merci. Le plus vite possible. Merci, les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt et surtout, restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.